Radio Van, la radio 100% Vantaise.
Il est 20h sur Radio Van et vous écoutez votre radio plaisir ce soir en direct de l'émission Les Copains d'abord. Ce soir, nous sommes avec Patrick, avec François. Ils peuvent dire bonjour, oui, si, les micros sont ouverts.
Bonsoir.
Avec François, avec Yves, avec Guigui. Et on va parler ce soir cinéma, on va parler Pâques, on va parler œufs de Pâques. On va avoir aussi une histoire en fait d'un fabuleux breton. Nous serons dans son sillon de flibustier, sillage. C'est mieux. Sinon, c'est le disque.
C'est sûr.
Dans le sillage d'un flibustier. Nous allons parler musique, bien sûr. Nous allons aussi revenir sur des chroniques cinéma, un peu de poésie. Et on finira par l'agenda de ce qui se passe à Vannes. Vous écoutez Les Copains d'abord et vous êtes en direct de Radio Vannes.
Radio Vannes.
Et on commence tout de suite par une chronique, un billet d'humeur. Et je passe le micro à Yves qui va nous parler de Pâques. Et il va nous dire comment on fait pour refaire une fête de Pâques réussie. Bonsoir Yves.
Bonsoir. Oui, pour faire une fête de Pâques réussie, il faut trois conditions. Des enfants, un jardin ou une terrasse. Bref, il faut sortir dehors et il faut des œufs, bien sûr.
Dans un appart, c'est pas possible?
Dans un appart, les œufs, ils sont dans le frigo, ça n'a aucun intérêt.
Bon, à Radio Van, on ne doit pas avoir de peur des polémiques. Alors, qui va amener les œufs?
Les cloches, selon Rome. Mais je connais beaucoup de cloches et je n'en ai jamais vu voler. Il y a eu Icare, mais ça lui a paru ici. On dit aussi qu'après 40 jours de jeûne, lors du carême, il fallait écouler les œufs des stocks d'œufs que les poules n'arrêtaient pas de pondre. C'était sans doute une opération comme marketing déjà pour défendre les agriculteurs.
Déjà, oui.
Et d'ailleurs, ils se sont déjà fait avoir quand on a remplacé les œufs par des œufs en chocolat.
Mais alors Yves, est-ce qu'il y a d'autres porteurs d'œufs possibles?
C'est un sujet dont on discute souvent en famille, mais il y a la chance d'avoir un beau-frère qui est un chou lapin et qui a beaucoup de poules. Je sais qu'on ne peut plus parler comme ça, mais bon, il faut dire qu'il est pâtissier et fait beaucoup de poules en chocolat. Et de par l'histoire de... Par l'histoire et de par Dieu.
Ah non, pas de par Dieu.
Je reformule. De par l'histoire et de par ma grand-mère, si tu préfères, les poules en plumes font des œufs en coque et les poules en chocolat font des œufs en chocolat. C'est la logique de l'évolution darwinienne.
Ah d'accord, ok.
Sinon, par tes remarques, ça devient difficile et même pénible. Je constate qu'on ne peut plus parler comme avant sans se faire rabrouer. Faut-il attendre que les poules aient des dents pour retrouver une liberté de langage?
Tu parles comme avant, Yves. Tu parles comme avant pour se faire comprendre. On ne dit plus rabrouer déjà, on dit rembarrer.
Ah oui.
Et on peut plus parler comme avant, mais sans se faire rembarrer.
D'accord, ok. Bon, je suis décalé comme un peu cette émission. Mais j'assume de l'être à mon âge. Bon, revenons à nos moutons.
Les moutons, ça pond des œufs aussi.
Oui, en Nouvelle-Zélande, ils ont des moutons élevés et sélectionnés pour la laine.
Pourquoi ils sentent mauvais de la bouche?
La laine, en deux mots, qu'ils vendent très cher d'ailleurs, et pas du tout pour la viande qui est très mauvaise. Ça ne les empêche pas de nous envoyer tout ça en gigot congelé dans les supermarchés. Là aussi, au pays des Holbacks, à Pâques, ils fabriquent des œufs noirs avec des crottes de moutons et du sucre en les faisant passer pour du chocolat par souci de recyclage en circuit court.
Mais c'est quoi ta source pour les œufs noirs, Yves?
Internet, parce que je suis dans l'époque, mais non. Tu veux que je te dise ma pensée?
Vas-y.
À Pâques, le pape prononce Ubi et Orbi, partout et en tout lieu, pour une bénédiction universelle. Aujourd'hui, c'est la connerie qui est universelle. Celle qui résume toute réflexion en tout noir ou tout blanc, qui est incapable et même parfois refuse de poser la question de l'origine de l'œuf et de la poule, faute de culture et d'éducation, de science et de conscience, d'amour et d'humour, sur tous les continents, tous les clivages, en Russie, en Chine, en Amérique, en Afrique, en Europe, tout le monde régresse au rythme d'un nouveau métronome. Tic, toc, tic, toc, tic, toc. Et même la musique n'est plus universelle. Victor Hugo disait « La musique, c'est du bruit qui pense. » Pour mettre un bémol et conclure cette rubrique avec une note positive, je propose une chanson dans l'esprit de Pâques.
On ira tous au paradis. Allez, on va tous chanter.
Même moi.
On ira tous au paradis.
soit maudit, on ira. Toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis.
Radio Van.
Radio Van en direct, 20h11, vous êtes dans le temps des copains. Et donc on va écouter juste après la chronique cinéma. On va parler de cinéma en Bretagne.
C'est cinéma présenté par François Grégory.
Dans les sorties en salle du mois, Arrêt sur image sur deux films tournés en Bretagne. Ça tourne en Bretagne ce mois-ci avec deux œuvres captivantes tournées intégralement en Bretagne, Rosalie et Hors saison. Rosalie, c'est un film de Stéphanie Di Giotto inspiré de la vie de Clémentine Delay avec Nadia Tereskevic, Benoît Magimel et Benjamin Biolay. Rosalie, c'est l'histoire d'une jeune femme pas comme les autres dans la France de 1870 pendant la guerre franco-prussienne. Une femme pas comme les autres car elle cache un secret. Elle va épouser Abel, interprété par Benoît Magimel, un tenancier de café acculé de dettes qui va simplement l'épouser pour sa dot sans connaître son secret. Abel sera-t-il capable de l'aimer ? Survivra-t-elle quant à elle à la cruauté des autres ? Pour découvrir le secret d'Abel, je vous donne rendez-vous devant l'écran blanc de votre salle obscure.
C'est faire beaucoup de choses, hein. C'est lire et c'est même écrire.
Vous avez l'argent ?
Tu crois vraiment qu'il comprendra ?
Je le connais très peu, moi. Hein.
Je dois vous dire quelque chose. Je ne veux pas d'une vie sans enfant.
C'est un peu tôt, non ?
Ça doit être quelque chose. Quelqu'un qui vous aime comme ça, sans condition. Ah ! Reste pas encore, s'il te plaît.
Tu dois vivre ta vie de femme.
Laissez-moi vous regarder.
Mon père a essayé tous les remèdes quand j'étais petite.
Vous êtes née comme ça. Vous m'avez menti. C'est monstrueux.
Monstrueux.
C'est ça ta dot. Et le reste ?
J'ai besoin encore un peu de temps.
Quel temps ? Il n'y en a plus du temps.
J'espère juste que vous soyez différent.
Et moi que vous soyez comme les autres.
La dernière fois vous me demandiez si c'est un vrai phénomène de foire. Une femme à barbe, ça s'en est. Suffirait que je laisse pousser la mienne.
Qu'est-ce qui vous a pris ?
Comment vous allez faire avec vos têtes ? Ça fait venir les clients.
Ne faites pas ça. Ils vont vous humilier.
Vous êtes belle, Rosalie.
Je vous fais pas de honte.
C'est un enfant, vous voulez ? C'est pas un mari.
On a les couilles sous ses poils.
Vous partez chez moi ! J'ai jamais demandé ça à moi !
Ça vous amuse bien, cette petite comédie ?
C'est pas une femme, ça.
Second film tourné en Bretagne, Hors saison de Stéphane Brisé avec Guillaume Canet et Alma Wolvaker. Film tourné en Bretagne et présenté en compétition à la Mostra de Venise.
Peut-être, oui.
Ni avec toi, ni sans toi. Le silence.
Hors saison nous plonge dans la vie de Mathieu, un acteur connu qui a la cinquantaine, et Alice, la quarantaine, professeur de piano dans une petite station balnéaire bretonne. Ils se sont aimés, ils se sont quittés, ils vont se retrouver dans une station thalasso bretonne. Voici l'intrigue de Hors saison. Bande annonce.
Salut.
Salut.
Ça va ?
Ouais, ça va.
Tu fais quoi, toi ?
Comment ça, qu'est-ce que je fais ?
Dans la vie.
Je suis comédien.
Et tu vas, c'est pas trop dur ?
Ça va.
Est-ce qu'on pourrait faire une petite photo ensemble, s'il vous plaît ? Une deuxième ?
Tu vois, le dossier classé.
Ah oui, donc c'est classé, donc on n'en parle plus, en fait. Je peux pas te parler d'un truc qui me rend pas bien, en fait.
Un message pour vous a été déposé à la réception. Allô ?
Allô, Alice ?
J'étais pas sûre de te contacter.
Non, je suis très heureux.
Mais je parle toujours aussi mal le français.
Non, mais zéro progrès, c'est quand même fou.
Toi.
Tout va pas bien, mais le tout va bien.
Qu'est-ce qui ne va pas dans le tout ?
Tu vois, ça, les golfs, là. Bon, ça passe après le réchauffement climatique, bien sûr.
mari, il sait qu'on est ensemble.
Il sait qu'avant lui, j'étais avec quelqu'un qui m'avait laissé en vrac. Tu prends, tu jettes, tu pars.
Tu veux vraiment que ça se termine comme ça?
Je sais pas. Montre-moi. Comment tu t'excuserais?
C'était Cinéma, présenté par François Grégory.
Radio Van.
Merci François pour cette chronique ciné tournée en Bretagne. On va maintenant passer donc à l'actu d'un Breton. Alors une actualité un peu décalée du coup pour le coup parce que c'est l'histoire donc d'un flibustier. On a eu le premier épisode la semaine dernière et donc c'est avec Patrick qui va nous raconter donc dans les sillages d'un flibustier.
Absolument, Jean-Marie, absolument. On va débuter aujourd'hui l'histoire de notre petit Ventet, prénommé Pierre, que nous appellerons Bart, B-A-R-T, parce que c'est le nom sous lequel il est connu à travers son procès, dont je vous ai déjà dit qu'il s'était déroulé en 1685. En fait, sans vouloir spoiler la suite de l'histoire, il est connu dans l'histoire de la flibuste antillaise sous le nom de Capitaine Bréa. Mais ça, on aura le temps d'y revenir plus tard. Il est né à Vannes, donc, vers 1650, et donc il importe de planter le décor. Comme je l'ai évoqué la dernière fois, le roi de France à l'époque est Louis XIV. Pierre ne connaîtra d'ailleurs pas d'autres rois, puisque nous n'en sommes encore qu'aux premières années de son règne, qui, vous le savez, sera très long, puisqu'il ne s'achèvera qu'à sa mort en 1715, c'est-à-dire 30 ans après la mort de notre héros. En 1650, ce sont surtout les derniers feux de la Fronde. Pour être vraiment bref, Louis XIV est devenu roi à la mort de son père Louis XIII, en 1643, mais il n'avait que 5 ans à ce moment-là. Sa mère Anne d'Autriche est donc régente, jusqu'à ce que le petit roi soit jugé apte à prendre ses fonctions, théoriquement l'année suivante, quand il atteindra ses 13 ans. Alors Anne d'Autriche, ce nom-là vous dit peut-être quelque chose, parce que c'est la reine qui perd ces fameux ferrets que D'Artagnan doit retrouver vite fait dans les Trois Mousquetaires. Et voilà, c'est pour vous situer l'époque, on est à ce moment-là. Anne d'Autriche, elle est assistée dans sa tâche de régente par le célèbre cardinal Mazarin, qui dirige en fait le royaume depuis qu'il a succédé au non moins célèbre cardinal Richelieu, qui était d'ailleurs duc de Bretagne, 8 ans auparavant. En bref, c'est une période assez troublée, puisque de nombreux grands du royaume supportent assez mal d'être dirigés par une Espagnole, parce que oui, Anne d'Autriche, en fait, elle est espagnole. Et par un Italien, Giulio Mazzarini, qui, il est vrai, s'enrichissent aux dépens du royaume en détenant tous les pouvoirs. Il faut préciser aussi qu'Anne a cassé d'autorité le testament de Louis XIII, qui ne lui confiait pas du tout le pouvoir. Alors il y a toute une série de révoltes, larvées ou non, et le point culminant se situe en janvier 1649, où la régente et le roi doivent carrément fuir Paris devant les troupes de Condé. La Fronde, c'est super important dans l'histoire de France, ça, parce que ça marque profondément le petit roi Louis. Et par exemple, ça le conduira plus tard à centraliser son pouvoir à l'extrême et à instaurer un système de cour lui permettant de tenir ses nobles en laisse et à construire Versailles pour s'installer hors de Paris. Mais en 1650, il mène une vie itinérante, c'est-à-dire que la cour, bien que basée au Palais Royal à Paris, continue à fonctionner un petit peu comme les siècles d'avant. Et elle est itinérante, comme ça se faisait régulièrement. Donc il fait une grande tournée. En 1650, c'est le Louis XIV Tour, qui cette année-là l'amène en Normandie, en Bourgogne et en Guyenne, histoire de calmer les révoltes un petit peu partout. Voilà, je ne vais pas développer plus avant la période et l'histoire de la Fronde, mais c'est vraiment important pour la suite de planter le décor en France à ce moment-là. Et à Vannes alors, comment ça se passe? Eh bien, on voit ça après une petite pause musicale.
Radio Vannes, ma radio locale.
Merci. Ça a du mal à partir.
I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. Tell you I ain't lying.
I Put a Spell on You sur Radio Van. Vous êtes en direct, il est 20h23 et on va se retrouver 7 ans après la mort de Richelieu en 1650 avec la chronique de Patrick dans le sillage d'un flibustier.
D'un capitaine voilà. Flibustier, effectivement, qui a vécu au XVIIe siècle. On était en 1650, donc date de sa naissance, et Van était devenu au fil des siècles, et notamment avec la présence du duc de Bretagne en son château de l'Hermine. D'ailleurs, à ce sujet, il faudra qu'on en parle sur Radio Van et qu'on fasse une émission spéciale, ou au moins une chronique spéciale sur les fouilles absolument passionnantes qui ont lieu en ce moment sur le site du château de l'Hermine, rue de la Porte Poterne. Oui. Bref, Van était devenu une ville très importante, un siège administratif, un siège judiciaire. Les États de Bretagne s'y réunissent assez régulièrement, comme en 1643, 7 ans avant. Mais en cette année 1650, avec la Régence, les choses ont changé. À cette époque, on dénombre environ 10-11 000 Vannetais, à ce moment-là. Et ça va atteindre un point culminant dans les années suivantes. On dépassera les 13 000 en 1667. La production agricole de l'arrière-pays est abondante. Et s'est mise en place peu à peu une activité de cabotage pour exporter les surplus, notamment en direction de l'Espagne. Ça marche très bien, ce truc-là. On passe aussi par Bordeaux pour le vin, on vise Bilbao, Saint-Sébastien, et même jusqu'au Portugal. Pierre y fait ses classes de marin, très certainement, car il ne faut pas oublier que plus tard, quand on se retrouve sur un bateau rempli de flibustiers, c'est-à-dire d'aventuriers qui cherchent à survivre et à gagner de l'argent par tous les moyens, celui qu'on choisit pour capitaine, c'est celui qui sait naviguer. Sauf que dans la seconde moitié du siècle, c'est un peu de la fin de l'âge d'or pour Van, comme pour les marins qui vivent de ce cabotage. D'abord, il y a de la concurrence, les pays du Nord, mais aussi Nantes, Hennebon, Bordeaux et bientôt Port-Louis. Et puis le port, enfin en fait ce qui en tient lieu, parce qu'à cette époque-là, le port n'est pas encore construit. Le clergé notamment s'y oppose. Le port s'envase, comme il s'envase encore aujourd'hui, ça a toujours été le cas. Et dès 1650, il faut débuter des gros travaux pour essayer de l'utiliser, parce que les bateaux, les plus beaux bateaux, n'arrivent plus jusqu'à Vannes. Et puis, la culture céréalière prend beaucoup d'essor en Espagne à ce moment-là, et du coup, les Espagnols n'ont plus besoin qu'on leur envoie le blé, le froment, le seigle, qui est produit en abondance par l'arrière-pays vannetais. Les prix espagnols baissent donc beaucoup, et beaucoup plus vite surtout que les prix bretons. Les marins, petit à petit, commencent donc à tirer la langue. La vie locale, elle est marquée par un poids de plus en plus important du clergé. Sous l'impulsion essentielle de deux évêques, qui sont d'ailleurs de la même famille, Sébastien de Rosmadec, jusqu'en 1647, et puis son neveu, Charles, jusqu'en 1671. Ces deux-là, ils vont vraiment favoriser la venue à Vannes, et ça va profondément marquer la vie de Vannes, de multiples congrégations religieuses. Il va y avoir les Ursulines, il va y avoir les Jésuites, il va y avoir les Cordeliers, il va y avoir les Carmélites, etc. Ça augmente le niveau d'éducation, c'est plutôt une bonne chose, même si on notera que Pierre n'en a pas profité. Parce que dans son procès, il est précisé qu'il ne peut pas signer et donc il ne sait pas écrire. Il ne peut pas signer, je précise, parce qu'il ne le sait pas, pas parce qu'on lui a coupé une main. Hein. Le greffier précise qu'il ne sait pas signer. Et puis, ça influe beaucoup sur la vie de la cité, cette prépondérance du clergé. On estime qu'à cette époque-là, l'ensemble des congrégations religieuses possède à peu près 60% de la ville de Vannes. C'est énorme. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une communauté de citoyens décide d'agrandir une rue, de raboter une maison, le clergé s'y oppose, parce que ça touche forcément une congrégation religieuse. Et donc ça va beaucoup, beaucoup freiner Vannes dans son expansion, qui à ce moment-là rentre doucement dans une petite période de déclin. Ça va durer à peu près... Allez, pour ce qui concerne Barre, ça va durer 20 ans, puisqu'en 1672, sa vie va connaître un grand changement que nous verrons la prochaine fois.
Merci Patrick pour cette chronique d'un breton oublié. On est content de pouvoir se replonger dans cette histoire locale et nous faire découvrir tout ça à travers ce flibustier. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Et en attendant...
Si t'as envie.
Et en attendant, on écoute le Sud sur Radio Van.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'un million d'années. En été, y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y a plein de chiens, y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement. Toujours en été. Un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien. On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. C'est le destin.
Sur Radio Van le Sud à l'instant sur votre radio plaisir. Et donc un petit scoop, c'est qu'on vient d'avoir un Parisien breton qui vient d'arriver, et donc on le retrouvera juste après la prochaine chronique. Donc la prochaine chronique, ça va être sortie cinéma avec le film Pas de vague dans un instant.
Radio Van.
Pas de vague, donc c'est le film de Teddy Lucie Modeste qui est sorti ce mercredi. Donc voilà, aujourd'hui dans cette rubrique critique, nous vous emmenons au cœur d'une controverse qui agite les couloirs d'un établissement scolaire. Imaginez-vous, un professeur de français, Julien, se retrouve soudainement au centre d'une tempête médiatique, accusé à tort de harcèlement par l'une de ses élèves, Leslie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les répercussions sont explosives et sans interruption. Julien incarne ce professeur à l'ancienne, un de ces hussards noirs de la République, faisant l'honneur à la littérature classique dans un monde qui semble parfois l'avoir oublié. Les élèves, captivés par sa passion, découvrent les verbes de Ronsard sous sa plume experte. Mais voilà, son geste bienveillant envers la timide Leslie va déclencher une série d'événements tragiques. Accusé de harcèlement, Julien se trouve plongé dans un cauchemar dont il a peine à s'extraire. Les critiques fusent de toutes parts, alimentant un déferlement de haine et de suspicion. Les collègues hésitent, les parents s'en mêlent et même les apparences les plus anodines deviennent des preuves à charge contre Julien. Mais au milieu de ce tourbillon médiatique, la vérité se perd, celle de la personnalité de Julien, de sa vie, de son identité. Alors je révèle pas tous les détails, je vais pas spoiler, mais il y a encore des choses très importantes. Et en fait, c'est dans ce contexte tendu que le réalisateur Teddy Louis Loutsi Modeste nous livre une œuvre coup de poing, une version moderne des risques du métier. À travers le personnage de Julien, interprété par François Civil, il nous plonge au cœur de cette crise, entre silence et lâcheté, entre huée et ricanement. À propos de François Civil, votre animateur de Radio Van, François Grégory, né le même jour d'ailleurs que François, nous en dit un peu plus sur l'acteur. Je t'écoute, François.
Oui, bonsoir. Même jour, mais hélas, pas même année. Lui, c'est 1990, moi, c'est un peu avant. Voilà. Donc, François Civil, ben, moi, je l'ai découvert en 2013 dans un court-métrage. Je vous propose d'aller sur YouTube, il est toujours dispo. Okay. Le court-métrage s'appelle Pour un rôle et c'est réalisé par un certain Pierre Ninet, pas connu du tout à l'époque, mais qui aujourd'hui fait aussi face caméra, remplit bien nos écrans de cinéma.
Aujourd'hui, oui, c'est vrai.
Et sinon, François Civil, ben, il a un parcours, donc il est jeune, moins de 10 ans. À peine 10 ans de métier, 25 films déjà à son actif, 10 courts-métrages et 15 séries télé, c'est pas mal.
Ça fait un paquet.
Ouais. Ouais, ça fait un paquet. Et puis la fameuse série 10%, où il joue le petit copain d'une des secrétaires. Donc voilà, c'est comme ça qu'on l'a un peu découvert sur le petit écran.
C'est vrai.
Et puis pour terminer, bah, il vient de terminer le tournage avec Gilles Lellouche de son prochain film qui sortira en 2025, L'amour, oui. Alors là, c'est toujours pareil, les histoires d'amour, les histoires de cœur.
Ok, on y reviendra quand ça sortira. Et en tout cas, dans ce film, c'est vrai qu'il est filmé en très gros plan et il a vraiment un jeu très soutenu. Alors, pour conclure, en fait, Teddy Louis Modeste, cette fois-ci, j'ai réussi à ne pas écorcher son nom, accompagné de sa scénariste Audrey Diwan, donc apporte un regard sensible et vraiment dépassé sur les tourments de l'adolescence et le désarroi de l'âge adulte. À travers cette histoire poignante, il nous rappelle que derrière chaque accusation se cache une personne avec ses doutes, ses faiblesses et surtout sa vérité. Un film simple, fort en écriture, très bien interprété, un film à voir absolument.
J'entends dans ta cora parfois même ta colère. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère.
Many to Many sur Radio Van. On a donc maintenant notre invité surprise pour la chronique disruptive. Et c'est Guillaume qui arrive tout droit de Paris, vient de sortir du TGV. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir à tous, comment vous allez?
Ça va bien. Je vais juste te demander de remonter un tout petit peu ton micro.
Ouais, pas de soucis.
Voilà, on va mieux t'entendre. Et donc Guillaume, il nous arrive de Paris avec une chronique. T'écoutes Guillaume.
D'abord, je commence par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je fais partie de Radio Van depuis les prémices du projet.
C'est vrai.
Et ça fait 4 ans que je ne suis pas venu parler derrière un micro. Donc c'est avec grand plaisir que je suis avec vous ce soir. Et ouais, merci à Jean-Marie pour l'invitation.
Super, mais on est content de t'avoir chopé à la sortie du TGV. On t'a envoyé un taxi vite
c'est
fait.
C'est ça, ouais, exactement. Vous parlez des chroniques d'un Van T à Paris. Pour poser le contexte un petit peu, je suis venu faire mes études à Paris en 2023. Tout simplement en 2022 ouais. En 2022 je suis venu faire mes études à Paris en 2022 à l'issue des résultats de Parcoursup. J'ai été pris dans une école en région parisienne qui est une école d'ingénieurs de la construction.
D'accord.
Donc tout ce qui est relié au milieu de l'architecture et du design entre guillemets de bâtiments.
Okay.
C'était mon premier choix sur Parcoursup, donc je n'ai pas hésité et je suis parti vivre à Paris. J'étais loin de me douter que j'affronterais autant de choses dans la grande capitale en ayant quitté ma petite ville bretonne. Mais ça a été un plaisir pour moi. Et je compte bien vous partager mes impressions sur la ville.
Bah écoute, c'est avec plaisir, avec plaisir. Et donc, est-ce que tu peux nous dire, parce que je pense souvent à quelque chose, c'est, moi j'ai habité à Paris, j'ai jamais vu aussi peu la Tour Eiffel que quand j'étais à Paris, et maintenant que j'habite en Bretagne, en fait, tout le monde nous dit, ouais, tu vois, là j'étais à Rennes cet après-midi, et les gens me disaient, ouais, c'est génial, vous habitez au bord de la mer, et tout ça, en fait, plus on est proche, moins on la voit, en fait. Et
ouais.
Toi, est-ce que tu la vois, la Tour Eiffel?
Bah,
question.
Petit moment de flex, je vois la pointe de la Tour Eiffel depuis ma fenêtre.
Oh la vache,
mais que la pointe. Donc j'ai envie de dire que c'est mon seul rapport avec la Tour Eiffel parce que dans le sens où je vais pas forcément dans les quartiers où on la voit facilement, je vais principalement, je me déplace en fonction de mes cours, en fonction de mes courses aussi.
Et t'es sorti, non?
Oui, ouais, je suis sorti. Donc, je peux dire que j'ai vu la Tour Eiffel plusieurs fois, mais c'est vrai que en vivant là-bas, la Tour Eiffel, ça tombe un peu dans l'oubli et on passe devant comme un immeuble lambda, quoi.
C'est vrai.
Mais ça reste quand même une merveille d'architecture et il faut apprécier le travail de ce bon vieux Gustave et de tous ses ouvriers qui ont fait ça pour l'exposition universelle.
Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit yin-yang là sur ce qui se passe là-bas par rapport à la Bretagne et comment tu vis ça?
Il faut déjà commencer par dire que c'est deux milieux très différents. On a un milieu qui est plutôt soudé, je dirais, en Bretagne, où les gens, sans forcément trop se connaître, sont aimables les uns avec les autres. Un milieu où tout le monde se parle sans se parler, et tout le monde tire dans les pattes de tout le monde, et tout le monde ne parle pas à tout le monde aussi. J'ai vu très peu de personnes aussi aigries ou aussi de mauvaise humeur dans des moments quotidiens qu'à Paris. Rien qu'hier, par exemple, j'étais devant un bar. Bon, désolé, c'était le jeudi soir. J'étais devant un bar et puis une dame qui arrive de nulle part en furie qui nous dit « Ouais, poussez-vous, vous êtes sur le trottoir, vous voyez pas que vous gênez tout le monde ?» alors qu'on n'était même pas sur le trottoir, quoi. Donc, bon, en tant que Parisien, je peux comprendre que des gens pètent un câble un petit peu. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus exagérer et le montrer trop aux autres.
Ok.
Ouais. Moi, je suis un ancien Parisien. J'ai fait 25 ans, donc un peu comme Jean-Marie.
François, on écoute François.
On écoute François.
Qui intervient.
J'ai été adopté par la Bretagne il y a déjà pas mal d'années aussi. Je ne vais pas dire, parce qu'addition en 2012, ça va faire un âge important. Mmh. Et sinon, je garde quand même un bon souvenir de Paris. J'ai la chance d'y retourner 4-5 jours par mois. Et bon, en connaissant bien Paris, on découvre quand même des quartiers charmants.
Exactement.
Des gens charmants, des établissements intéressants.
Ouais.
Donc voilà. Et je te conseille d'aller faire un tour dans le 14e, qui est le quartier breton de Paris.
Ouais. À côté de la Tour Montparnasse.
Les crêpes sont à 20 euros.
C'est ça, ouais.
La galette.
Ouais.
Euros. Ouais. Après, c'est vrai que moi, j'ai vécu à Paris aussi. Quand on n'y est plus, on vit différemment, en fait. Quand on y va quelques jours, 3-4 jours, c'est un peu de la folie parce que entre métro, boulot, dodo, effectivement, et puis les rendez-vous ou les expos et tout ça, c'est un peu une course folle, mais ça permet de voir Paris un peu côté étincelant la Tour Eiffel, quoi. Alors, mais quand on y est tous les jours, c'est un peu plus galère. Quoi,
j'en conviens, maintenant j'y vais un peu pour le travail et pour le loisir, mais effectivement, Paris a quand même lourdement changé, pas dans le bon sens.
Ouais, donc quand on ira, on appellera Guillaume pour qu'il nous trouve les bonnes adresses.
Ouais, c'est ça. Mais en vrai, je suis d'accord, pour rebondir sur ce que François disait, je suis d'accord pour dire que Paris, on l'apprécie différemment en vacances et en y habitant. C'est vrai qu'en y habitant, on est moins émerveillé parce que c'est vraiment des choses qu'on voit tous les jours et qui deviennent banales au fur et à mesure du temps. Alors que je me rappelle que quand j'allais en vacances à Paris, en habitant à Vannes, c'était vraiment la semaine où je pouvais aller voir des grands magasins, où je pouvais aller voir des super bâtiments, où je pouvais aller voir des expositions, plein de choses que justement je retrouvais pas à Vannes. Bon, il y avait la Seine à Paris et la mer à Vannes, donc c'est vrai qu'il y a aussi des points négatifs. Mais la ville s'apprécie différemment quand on y habite et quand on y va pour le loisir justement.
Bon, est-ce que la Seine serait assez propre pour les Jeux Olympiques? Est-ce que tu penses qu'elle est plus claire déjà depuis?
Bah, écoute, bon, je veux pas casser les idées de notre très chère Anne Hidalgo, mais il semblerait que la Seine ne soit pas encore prête. Après, je sais pas, j'ai pas goûté pour voir si l'eau était bonne et potable, mais moi, en tout cas, ça me paraît un peu compliqué quand on voit la couleur et quand on voit ce qu'il y a au fond.
Ok, faut mieux pas savoir ce qu'il y a au fond.
Ouais, c'est ça.
Bon, et du coup, tu conclurais sur quoi, alors, sur cette histoire de comparaison?
Bah, je pense que je conclurais pour dire que c'est une ville qui me plaît. Voilà, je suis né à Paris, mais en ayant goûté à la vie vannaise, même si, proportionnellement à la vie parisienne, je suis resté moins longtemps, je préfère beaucoup plus le cadre, le calme, et puis aussi, par exemple, le fait d'habiter à l'ouest, le soleil se couche à l'ouest, donc on a des journées avec plus de lumière jusqu'à plus tard. Et c'est plus agréable, notamment l'hiver, où quand il fait nuit à 18h à Paris, on a juste envie de ne pas aller en cours et de rester sous un plaid, à regarder des séries toute la journée.
Ok, donc et en conclusion, est-ce qu'on pourrait dire que tu es un breton parisien ou un parisien breton?
Je dirais un breton mi-parisien.
Mi-breton, mi-parisien.
Exactement.
Et ben, je te remercie, Guillaume. À très, très bientôt. Merci d'être
merci
venu.
Merci à vous. Et j'espère bientôt passage. Revenir parmi vous.
Et profite bien de ton séjour en Bretagne. On
merci
te remercie.
Beaucoup.
À bientôt.
Ouais, merci.
À bientôt sur Radio Van.
Radio Van. You're all cold. I'm tripping.
Yeah. Heads Will Roll sur Radio Van, 20h49, toujours avec nous sur votre radio plaisir. Et on va continuer avec un peu de poésie. Et je vais vous parler de J'ai péché, péché dans le plaisir. Je vous propose un peu de poésie et de littérature. C'est un livre en fait de la journaliste, réalisatrice et écrivaine Abnous Salmani qui explore le lien de l'intime. Cet ouvrage met à l'honneur deux femmes poètes qui défient les conventions de leurs époques et qui se retrouvent autour d'un point commun, assumer leurs désirs en même temps que leur quête de liberté. Abnous Salmani ne conçoit pas la liberté de penser sans la liberté du corps et va même plus loin en abordant la liberté sexuelle des femmes et leur rapport au plaisir. Pour illustrer la sortie de cet ouvrage, je vais vous proposer d'écouter une lecture bouleversante de Gauchifte Farhani, des mots brûlants, subversifs du poème Foro Farrokhzad qui s'appelle Le péché. Extrait donc de la Grande Librairie, l'émission sur France 5 tous les mercredis à 21h. Et pour ceux qui souhaiteraient s'offrir le replay de l'émission complète, c'était celle du 6 mars 2024. On écoute le poème.
J'ai péché. Péché dans le plaisir. Dans des bras chauds et enflammés. J'ai péché. Péché dans des bras de fer. Dans des bras brûlants et rancuniers. Dans ces lieux calmes, sombres et muets. J'ai regardé ses yeux pleins de mystère. Et des supplications de ses yeux. Mon cœur, impatiemment, a tremblé. Dans ce lieu calme, sombre et muet, je me suis assise près de lui, agitée. Ses lèvres enversaient l'envie sur mes lèvres. Du chagrin de mon cœur fou, je me suis libérée. Une histoire d'amour, je lui ai racontée. Je te veux, mon bien-aimé, je te veux. Toi, dans les bras sont vivifiants. Je te veux, toi, mon amour fou. L'envie a enflammé son regard. Le vin rouge a dansé dans le verre. Et sur le lit doux, mon corps, ivre de volupté, sur sa poitrine a tremblé. گناه کردم گناهی پر ز لذت کنار پیکری لرزان و مدهوش خداوندا چه میدانم چه کردم در آن خلوتگاه تاریک و خاموش j'ai péché péché dans le plaisir près d'un corps tremblant et évanoui Seigneur je ne sais pas ce que j'ai fait dans ce lieu calme sombre et muet.
Dans les sorties vinyles du mois, coup de projecteur sur le label américain Mondo. Pour commencer, je vous propose de découvrir le triple LP aux dominantes couleurs orange pour la BO du film aux 7 Oscars Oppenheimer. La musique est composée par Ludwig Göransson qui retrouve ici Christopher Nolan après le film Tenet en 2020. Côté composition musicale, je dirais que c'est la patte Göransson qui est encore fortement présente dans cette composition, avec des boucles récurrentes de violon tel un tic-tac métallique, comme une horloge qui vont rythmer les diverses séquences du film. En conclusion, je dirais que j'ai été relativement très agréablement surpris à l'écoute de ce triple LP, car la musique, en étant détachée du flux des images, se révèle être plutôt mélancolique et intimiste. Extrait. Avec le label américain Mondo, je vous propose à présent de découvrir le double LP noir et blanc James Bond 007 qui sévit sur les écrans depuis plus de 60 ans avec la fameuse musique signée John Barry. I'd leave alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for a lie? You were never on my side. Fool me once, fool me twice.
Radio Van.
Merci François pour cette chronique ciné. À chaque fois, tu nous transportes dans les, voilà, dans les arcanes du cinéma et le plus possible connecté avec les sorties locales dans nos cinémas Cinéville, La Garenne, Cinéville donc de Parclane et puis les autres cinémas aux alentours. Et souvent, tu nous parles de cinéma aussi tourné en Bretagne. Et on va se retrouver maintenant toujours avec toi François sur On sort ce soir, donc l'agenda. Donc, qu'est-ce que tu nous as dégoté cette semaine François?
Alors pour commencer, une soirée, une sortie à faire le jeudi 18 avril au Palais des Arts. C'est la journée internationale du jazz, plutôt la soirée internationale du jazz, qui commence à 18h jusqu'à 20h avec un masterclass et qui se poursuit donc ensuite avec un concert immersif au casque. Ça peut être sympa.
Alors immersif au casque, est-ce que tu peux nous en dire plus François?
Alors donc c'est le groupe Tio Maleka, c'est, je sais pas, je pense que ça doit être du local, et donc c'est le public qui est plongé dans un concert avec un casque sur les oreilles, donc, un peu comme nous
la,
ce soir.
Ouais, ils ont de la stéréo, du coup un peu plus, c'est un peu plus profond. Absolument. Et c'est à quelle heure ce concert?
Et le concert est à 20h.
Ok, et après, est-ce qu'il y a autre chose?
Et après, on termine à minuit avec un jam session qui aura lieu donc avec les élèves du conservatoire.
Eh ben, superbe tout ça. Et est-ce que tu as une autre info pour les sorties de ce soir?
Oui, alors ce sont deux soirées, le même spectacle sur deux soirées. En fait, trois soirées, le 11, le 12 et le 13 avril, toujours au Palais des Arts, c'est Dans ton cœur. C'est un spectacle cirque acrobatique.
Ok, bah alors je te remercie beaucoup. Il est bientôt 21h, donc je vous remercie de nous avoir écoutés. Vous étiez en direct avec les quelques couacs ce soir. Donc on remercie Guillaume, on remercie François, on remercie Patrick, on remercie Yves, on remercie tous les personnes à la technique, dont Bertrand. On remercie Marie-Hélène. Je vais jamais y arriver. Hein. On remercie la charmante jeune femme qui nous accompagne. Et donc on se retrouve vendredi prochain à 20h. Bonne soirée, à bientôt.